Sweet Home Chicago, c'est la deuxième heure de ce 1135e épisode. On vient d'entendre Circle of Mode avec Victim of Love. On revient maintenant sur le disque de la semaine, le disque du mois, que dis-je ? C'est fini le disque de la semaine depuis longtemps. Le disque du mois, The Long Brothers. Et puis juste après, place à notre invité Didier Marty, pour lequel vous pouvez poser toutes vos questions, puisque l'interview va se dérouler en direct. Vous allez sur le Facebook Sweet Home Chicago, c'est facile. Allez, voici Lowland Brothers, Melania. Le groupe Lowland Brothers, disque du mois de janvier pour Sweet Home Chicago sur le 666. On est ensemble jusqu'à 15h et juste après le morceau qui arrive, on aura notre invité au téléphone en direct. Il s'agit de Didier Marty que je vous présente rapidement. Didier Marty qui est un chanteur, saxophoniste, chef d'orchestre, arrangeur, auteur et compositeur. Écoutez bien, depuis 1972, il a collaboré avec de nombreux artistes en tant que musicien ou directeur artistique et produit plusieurs créations. En tant que saxophoniste, il participe à de nombreux enregistrements et tournées internationales aux côtés d'artistes de renom. En voici quelques-uns. Screamin' Jay Hawkins, Paul Person, Jesse Garon, Carole Fredericks, Les Enfoirés, Lionel Richie, Linda Galli, Lewis et plus récemment Vigon, dont il est le chef d'orchestre. Dans des registres différents, il a écrit et interprété ses créations avec Marty and the Gang et le Mardi Brass Band, une dizaine d'albums. Parallèlement, il rend hommage à Fats Domino et à la Louisiane avec son groupe les Rolling Dominoes, dont il est l'initiateur, le chanteur et le saxophoniste. 5 albums et plus de 200 concerts. Voilà donc l'artiste qui va arriver dans 4 minutes et 21 secondes. Ça s'appelle « Mes états d'âme ». Et le meilleur reste à venir, Didier Marty. Le meilleur reste à venir, c'est ainsi que démarre cet album 10 titres de Didier Marty qui s'appelle Mes états d'âme, un album tout récent qu'on a pu découvrir dans l'émission déjà depuis sa sortie, je pense. Et j'ai le privilège, la joie et l'honneur d'être au téléphone en direct avec Didier Marty. Salut Didier.
Salut Marc.
Tu vas bien ?
Très bien.
Bon, depuis il n'y a pas si longtemps, parce qu'on s'est croisés, c'était sur un tremplin à Blouse-sur-Seine, tu t'en souviens encore ? C'était
Ah bah oui, avant que je saute.
L'année dernière.
Tremplin.
Avant que tu sautes du tremplin, oui. Bon, enfin, il y avait un élastique en dessous, c'était bon. Et donc, je t'ai découvert en tant que membre du jury comme moi, mais surtout en tant que présentateur, voilà, un talent que je ne te connaissais pas, parce qu'on ne se fréquente pas tous les jours, on va dire tout ce qui est vrai. Mais par contre, j'ai entendu parler de toi depuis fort longtemps. Alors, 1972, c'est l'année que j'avais cité tout à l'heure dans ta bio, tu as commencé à 3 semaines, Didier, c'est pas possible autrement.
Bon, en fait, c'est une histoire de circonstances, hein, comme tout le monde dans la vie. Mon père faisait des balles à la campagne.
C'est pas grave, Didier.
En Auvergne. C'est et puis grave. Grâce à lui, j'ai abordé la musique très tôt. Il jouait de la batterie, il chantait.
Ouais.
Et puis ensuite, il y a la voisine du dessous, qui était prof de solfège au conservatoire de Clermont-Ferrand. Donc, dès l'âge de 7 ans, j'ai commencé le conservatoire. Et puis après, la musique du conservatoire, c'était pas trop ma tasse de thé. Et j'ai découvert, comme tout le monde, dans les années 70, plein de musique qui m'intéressait. Et puis voilà.
Quand tu dis plein de musique qui t'intéressait, est-ce que c'est les mêmes que tu joues actuellement? Ou est-ce que tu étais plutôt éclectique, plutôt rock, plutôt jazz, plutôt soul, plutôt blues?
Moi, je suis un éclectique, mais à la façon des... Enfin, je me suis retrouvé une famille à la Nouvelle-Orléans, en fait.
Voilà, voilà.
Ce qui se passe à la Nouvelle-Orléans, c'est que le jazz, le blues, le rhythm and blues, la soul, tout ça, c'est les mêmes musiciens qui la jouent. Enfin, il n'y a pas tellement de frontières entre les styles.
Ouais.
Les musiciens sont capables de jouer un peu tout ça et voilà, c'est là-dedans que je me retrouve, moi.
Alors, la Nouvelle-Orléans, c'est une source d'inspiration pour plusieurs de tes formations. Et puis, j'imagine que tu as fait le pèlerinage plusieurs fois.
Oui.
Hein ?
Oui, je suis allé là-bas. Et puis, parce que j'avais rencontré des musiciens de la Nouvelle-Orléans à Paris. J'ai rencontré Coco Robichaud, avec qui on a fait quelques trucs.
Ouais.
Et puis, j'ai rencontré Marva Wright.
Ouais.
J'ai rencontré puis plein de gens qui venaient de là-bas parce que j'avais la chance à l'époque, je m'en rendais pas compte, mais parce que à cause du cachet, mais de jouer par exemple au Quai du Blues à Paris, enfin qui s'appelait après le Maxwell Café.
Ah oui, sur l'île de la Jatte, là, oui, je me souviens.
Voilà, donc là j'ai joué là-bas souvent, et puis j'ai rencontré beaucoup de gens qui venaient du sud des États-Unis, puis c'était un petit peu les artistes qui passaient là-bas, et puis. Et puis on parlait de musique, après on était voilà, donc ça m'a connecté avec plein de choses, et puis j'ai eu la chance dès mon enfance de découvrir Louis Armstrong, Sidney Bechet.
Oui.
Ça c'était déjà un son qui m'a pris aux tripes. Sidney Bechet, ici on en a une image de bon pépère qui joue du jazz un petit peu. Mais en fait, quand on écoute les blues de Sidney Bechet qu'il a joué à l'époque, c'est vraiment du blues comme on l'aime, quoi, qui prend aux tripes.
Alors, voilà, tu cites des jazzmen dits classiques de New Orleans. Est-ce qu'un garçon comme Mez Mezro t'a laissé de marbre, ou est-ce que c'est quelqu'un qui...
Déjà son livre, non.
Ben voilà.
La rage de vivre, c'est quand même un bouquin magnifique. Et puis, le mec était vraiment pris par cette histoire. Et la façon dont il la raconte, c'est un petit peu ce que j'ai vécu. Enfin, pas en direct comme lui, mais par... En bouquinant, en écoutant de la musique, et puis en croisant quelques musiciens quand même.
Alors ça, c'est ce qui revient souvent dans les interviews dans Sweet Home Chicago, à chaque fois qu'il y a un musicien qui parle de ses voyages aux States, ou en tout cas de ses rencontres avec des musiciens américains. D'abord, c'est la rencontre, c'est le fait de pouvoir effectivement confronter des cultures différentes, puis s'apercevoir finalement qu'on parle le même langage. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de parler anglais pour faire de la musique, Didier ?
Oui, je pense qu'il y a besoin de parler anglais, ouais. Parce que quand on veut jouer avec des gens qui viennent d'ailleurs. Il faut trouver une langue commune. Et puis l'anglais, c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique.
Oui, ça c'est clair.
Donc voilà, moi j'ai plutôt appris à parler anglais d'ailleurs avec les musiciens américains parce que, enfin, c'est un anglais de scène, quoi.
Ouais.
C'est l'anglais dans l'urgence, quoi, de ce qu'on doit communiquer pendant qu'on est sur scène, quoi. Donc
c'est ça. C'est pas l'anglais d'Oxford ou de Cambridge. C'est le slang. Et puis peut-être plus particulièrement le sud. Enfin, tu nous parles de la Nouvelle-Orléans. Est-ce que ce sont les seuls endroits que tu connais, ou tu es allé dans d'autres endroits aux États-Unis pour affiner, on va dire, ta connaissance de ces musiques?
Non. Moi, je suis allé à la Nouvelle-Orléans parce que c'était un voyage par rapport à la musique, quoi. Ça veut pas dire que les... Après, moi, je connais plein de gens qui viennent des États-Unis, avec qui j'ai toujours des relations, mais la musique, vraiment, les trucs qui m'ont flashé, c'est venu très souvent de la Nouvelle-Orléans, en fait.
Voilà. La musique, d'une manière générale, quelle place a-t-elle occupé et quelle place continue-t-elle d'occuper dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, on l'a compris, mais voilà, tu penses musique, tu vis musique tout le temps, ou tu as d'autres hobbies ou d'autres occupations?
Non, je pense que Bon, mis à part, comme tout le monde, je suis un être humain, donc je mange. je suis amoureux.
Oui. Là,
j'ai des réactions à peu près commune à tout le monde, mais c'est vrai que la musique, oui, c'est vraiment très central. Puis ça, c'est une vieille histoire, et c'est une chance. Pour moi, c'est une chance, parce que dans les époques tourmentées qu'on est en train de vivre, d'avoir la possibilité de se raccrocher à la musique, et puis d'écrire des chansons, et puis d'écouter de la musique. Voilà, ça, et puis la littérature aussi.
La littérature aussi.
J'aime lire,
partie de la littérature
Moi, je suis très branché sur les polars. Mais,
d'accord.
J'aime bien les polars bien écrits, quoi. Pas ce qu'on appelle les romans de gare.
Oui, on va dire James Liebert et autres.
James Liebert, évidemment. James Liebert, j'ai lu tout ce que j'ai pu lire, en fait. Je crois que je dirais pas que j'ai tout lu, parce que je sais pas si tout a été traduit en français, je lis pas en anglais, mais j'ai lu quasiment tout James Liebert, quoi.
Tu écoutes également un petit peu de tout, on l'a compris, et puis en citant tout à l'heure les artistes, quelques-uns des artistes avec lesquels tu t'es produit, on peut constater aussi la richesse et la variété. Lionel Richie, Screaming Jay Hawkins, on n'est pas du tout dans le même univers. Est-ce que ça t'ennuierait de nous parler tout particulièrement de cet artiste Screaming Jay Hawkins, parce que il fait partie de l'émission anniversaire. Il y a des invités qui a choisi un titre de Screaming Jay Hawkins. Est-ce que c'était pendant la période 95-2000 où il jouait également avec Frank H que tu l'as accompagné?
Oui. Ouais. Oui, d'ailleurs, il y a un album live.
Mais oui,
à l'Olympia.
Mmh. Qu'est-ce que tu retires de ton expérience avec cet artiste absolument hors norme qui était Screaming Jay Hawkins?
Ce que j'en retire, c'est que je peux me dire au moins que de temps en temps dans ma vie, j'ai eu de la chance. C'est-à-dire que moi, j'aimais bien Screaming Jay Hawkins. J'aimais bien parce qu'il correspond à plein de choses que j'aime. C'est-à-dire, en même temps, c'était un chanteur, c'était un bluesman, et puis en même temps, c'était un mec qui aimait faire le con.
Ouais.
Et puis arriver sur scène et faire du spectacle.
Avec son petit fétiche, sa tête de
Henri, oui.
Mmh
ouais.
Henri.
Et puis ça, bon, donc du coup, moi, je connaissais un peu son travail. Et puis quand Franck m'a appelé justement au départ, c'était pour faire un remplacement, et que je me suis retrouvé sur scène on a fait une petite répète avant. Et là, ouais. Déjà, de toute façon, c'était le même partout, hein, la scène comme à la ville. C'était un mec extravagant et puis passionnant, quoi. Moi, ce que je retiens, c'est que déjà une leçon de spectacle vu de près, puisqu'on était sur scène, et puis en même temps un mec très sympa, un peu barré, hein, mais
un peu barré,
tout
oui,
le
quand
temps,
même. C'est l'impression qu'il
est quand
surtout,
même vachement sympa.
Ouais, ouais. Surtout si tu dis qu'il est pareil à la ville qu'à la scène. Effectivement, moi je me souviens de ce concert, tu t'en souviens peut-être aussi, du Festival de Blues de Lisieux, je crois qu'on était vers 1999, où c'était chaud bouillant.
Oui, moi je me souviens pas de
ce concert-là en particulier.
En 99.
Bon, mais en tout cas, voilà, c'est la seule fois que je les ai vus à ce moment-là.
En 99, parce qu'en 99, moi je jouais avec les Screaming Jay. Il me semble pas qu'on ait fait Lisieux en 90. T'es sûr que c'était 99?
À peu près, à 90%, oui, mais on vérifiera, c'est pas très grave.
Bah, il faut que tu vérifies les 10% qui restent.
Voilà. Il est décédé juste après, je crois.
En 2000.
2000, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, 2000, et puis donc, je voulais t'amener.
On était neuf à son enterrement.
C'est pas vrai.
Ouais.
C'était où, à Levallois, non?
Au Père-Lachaise.
Père-Lachaise, d'accord.
Ouais.
Et alors, je voulais t'emmener sur ce grand écart. Alors, on pourrait citer plein d'artistes, mais on va arrêter après de parler des autres et puis parler de toi, parce que c'est quand même Didier Marty qu'on interview. Screaming Jay Hawkins, d'une part, et puis Lionel Richie, de l'autre. Alors, Dancing on the Ceiling, c'est toi le solo de sax?
Non. Non, en fait, les histoires sont un petit peu... c'est un petit peu compliqué à chaque fois. Enfin, compliqué, c'est des hasards, en fait. Moi, j'avais participé à des concerts de Trust,
ouais,
qui n'a strictement rien à voir avec Lionel Richie.
Non, effectivement.
Mais la personne qui s'occupait de Trust à l'époque m'appelle un jour en me disant « Voilà, Lionel Richie vient à Paris, il faut un saxophoniste, et est-ce que tu peux m'envoyer tous tes enregistrements internationaux ?» Alors, j'avoue que des enregistrements internationaux, j'en avais pas des piles. Donc j'ai ramené une cassette, à l'époque il y avait des cassettes où je jouais du rhythm and blues, jouais des morceaux de rhythm and blues, et puis bon, plein de gens ont ramené des choses, et puis c'est moi qui ai été choisi, donc voilà, j'ai joué avec Lionel Richie, mais non seulement avec Lionel Richie, parce que à l'époque son équipe c'était plutôt les musiciens de Michael Jackson qui étaient en haut de l'affiche à l'époque, et il y avait le chef d'orchestre Greg Phillinganes, et c'était toute l'équipe. Donc voilà, je me suis retrouvé là-dedans avec un grand plaisir, quoi.
Évidemment.
Et pour une fois, le track. Parce que je ne l'ai pas souvent.
Ah oui, alors justement, le track, la petite boule au ventre, non, voilà, tu vas au bureau, quoi, c'est ça, tu montes sur scène.
Ouais, bah là, c'est un petit peu, on se retrouve avec les gens dont on a lu sur les pochettes, enfin qui ont participé à tous les enregistrements top de l'époque, et puis effectivement les gens, après quand on rencontre les gens, c'est des gens qui sont très simples, mais quand on est sur scène, on sent que quand même il se passe qu'ils sont pas là pour rien, quoi. C'est des sacrés musiciens que je n'avais pas rencontrés, qu'on rencontre pas tous les jours.
Et puis, on peut citer également Vigon, dont tu t'occupes depuis quelques temps. Oui. Vigon, qui est un artiste lui aussi international, qui a connu une carrière flamboyante. Il a joué et collaboré avec des artistes comme les Rolling Stones, Stevie Wonder, Jimi Hendrix, Aretha Franklin, j'en passe. C'est pas forcément des meilleurs d'ailleurs, parce que ceux-là, c'est quand même parmi les meilleurs.
Ouais.
et toi, tu te retrouves chef d'orchestre de Vigon, mais pas en 65 comme à l'époque. C'était les années 2020, au moment du confinement, tu sors un album avec Vigon, On the Rolling Dominoes.
Ouais, on a commencé avant 2000, je crois, on a commencé avant 2010, en fait.
Ouais.
Bon, ben, c'est une histoire d'amitié, au départ. Et puis, on peut dire Vigon, on peut parler du passé de Vigon, mais le meilleur reste à venir, peut-être.
Enfin,
j'espère pour lui, j'espère qu'il y aura une suite, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est incroyable, quoi. Lui, il vit pour la musique, il respire la musique, quoi. Il aime ça, il a besoin de chanter tous les jours, et puis...
Encore maintenant.
Il est à fond. Et puis, il est terrible, quoi. Il a vraiment ça dans les tripes. On rencontre rarement des gens comme lui, quoi.
J'en viens à une question qu'on pose habituellement en fin d'interview. On n'y est pas tout à fait, bien sûr, mais est-ce qu'il y a des projets de concert avec Vigon pour toi?
Voilà, vu les circonstances.
Alors, vu les circonstances, il y a déjà des gens qui se projettent.
Tu sors de la radio de temps en temps, tu vois.
Non, j'étais en vacances pendant 2 ans sur la planète Mars. Et effectivement, mais voilà, je vois qu'il y a des tournées qui se montent. Alors, il y a aussi des concerts qui se déprogramment. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, tu veux dire.
Alors, on a quelques dates de prévues, mais c'est des dates et pas. On a quelques dates, mais je te cache pas qu'un orchestre dans lequel on est 12. C'est difficile à caser dans les circonstances actuelles. C'est encore plus que d'habitude, quoi.
Alors justement, tous ces autres projets que tu consacres à toutes ces musiques et avec la Nouvelle-Orléans, on va dire en fil rouge, il y a cet hommage à Fats Domino, à la Louisiane dans son ensemble, avec les Rolling Dominoes. Ça, il y a toujours une actu après les 5 albums que vous avez enregistrés. Ça existe toujours.
Ouais, on a fait 5 albums plus un best-of. Et il y a toujours l'actu. Je pense qu'elle s'arrêtera pas parce que Je ne sais pas s'il y aura des albums à venir, je ne sais pas, enfin certainement à un moment donné, mais surtout, je savais en créant ce groupe que la musique de Fats Domino, elle est agréable tout le temps, n'importe quand, elle est intemporelle, et je ne sais pas si j'emmenais un disque sur une île déserte, si j'en avais qu'un emmené, ça serait probablement un disque de Fats, pas parce que je suis plus fan que ça, ouais. Mais parce que c'est une musique tellement agréable, et donc quand on la joue, c'est agréable aussi, et ça je m'en lasserai jamais, je pense.
Et en plus, au niveau de sa vie, il a survécu à tout, enfin maintenant il est décédé qu'il avait atteint un âge avancé, mais il a même survécu à Katrina, enfin c'était juste incroyable. 2005, ah ouais. Tu t'en souviens, il s'est passé des choses à ce moment-là. Ah Est-ce que tu faisais partie des musiciens qui s'étaient réunis au casino d'Anguin à l'automne 2005 pour un petit peu ramasser des sous pour les victimes de Katrina?
Alors non, moi j'ai, par contre, on a fait, je sais pas si les gens connaissent, enfin, il y avait un endroit à Paris qui s'appelait le Blue Bayou, Blue Billard, ouais. Je sais pas si vous connaissez, c'était vraiment un endroit dédié à la Louisiane, c'était un restaurant louisianais, enfin, avec un décor très cajun, et là on a fait des soirées, oui, et on a participé donc... à essayer de récolter des fonds pour la Louisiane. J'ai fait des soirées là-bas.
Voilà, la Louisiane qui continue à t'inspirer. On va en arriver à des questions sur ton album plus précisément. Dans quelques minutes, là, je te propose qu'on écoute tes états d'âme, tout simplement, Didier.
Ok.
On écoute ça. Okay. Mes états d'âme. Didier Marty.
Je suis venu vous dire ce que j'ai sur le cœur. Je peux plus attendre. J'ai pas le choix. J'suis venu vous dire ce que j'ai sur le cœur. Le blues c'est fait pour ça. Mes états d'âme. Mes états d'âme. Mes états d'âme. Mes états d'âme. Si j'y arrive pas avec les mots, faudra pas m'en vouloir. Pas m'en vouloir. Je laisserai parler mon vieux saxo. Je connais mes histoires. Mes états d'âme. Mes états d'âme. C'est trop lourd à porter. Quand j'ai des choses à dire, c'est parfois mieux de les jouer. Mes états d'âme. Mes états d'âme. Le blues est né pour ça. Le blues est fait pour ça. Parfois les mots ne suffisent plus pour dire ce qu'on a sur le cœur. Quand on a besoin de se mettre à nu en gardant sa pudeur. Le blues est né pour ça. Le blues est fait pour ça. Le blues est né pour ça. Le blues est fait pour ça. Les états d'âme. Les états d'âme. Les états d'âme.
Mes états d'âme, le blues est né et le blues est fait pour ça. C'est ce que tu dis, Didier Marty, dans cet album qui s'appelle tout simplement Mes états d'âme. Question à propos de ce disque, Didier, pourquoi avoir choisi ce titre comme titre de l'album?
Ah bah, c'est assez parlant, quoi. En fait, voilà, c'était mes états d'âme du moment, enfin, qui représentent ce qui se passe dans ma tête en ce moment, quoi. Donc, il y a pas mal de thèmes abordés, mais je pense que mes états d'âme, c'est le résumé de tout ça, quoi.
Ouais. Alors, moi, je vais faire un truc, voilà, en direct à la radio, je vais carrément citer tous les titres, puis comme ça, on va peut-être avoir un petit aperçu, justement, de tes états d'âme. Le meilleur reste à venir, on l'a écouté tout à l'heure. Demain, j'arrête. Quand ce qu'on aime fout le camp, tout simplement, remonter la pente, mes états d'âme, bien sûr, dernier cri, enfant de la balle, tellement content d'être là ce soir, je m'arrache de là, et puis boum, baby boom, je crois qu'on a passé à peu près tous les titres dans les précédents Sweet Home Chicago, et puis on va continuer. Alors voilà, on a un petit résumé de tout ça, mais les titres, c'est bien. Après, les paroles, je voudrais savoir, quel était ton processus d'écriture? Comment est-ce que tu as fonctionné? Est-ce que tu as eu des idées que tu as couché aussitôt sur le papier? Est-ce que ça a été difficile?
Alors, faire une chanson, ça peut être ou très simple ou difficile, ouais. Ça dépend. Bah ça, tous les auteurs diront à peu près la même chose, je pense. Des fois, il y a un sujet, on a une idée dans la tête et puis ça sort tout seul. Enfin, tout seul, ça veut dire, après, il faut retoucher, retravailler. Et puis, des fois, il y a une idée, puis ça correspond à ce qu'on a dans la tête aussi. On a une idée, mais on sait pas tellement comment la définir. On sent que c'est quelque chose qu'on a justement dans les tripes, mais qu'on ne sait pas comment argumenter, enfin comment expliquer ce qui se passe à l'intérieur. Et là, ça prend beaucoup plus de temps. Voilà, ça c'est le processus d'écriture, c'est toujours quelque chose d'assez complexe. Puis il y a des moments où on est plus apte, enfin plus dans le mood pour faire ça, et puis d'autres non, quoi.
Didier, tu parles de temps, et effectivement, j'ai l'impression que le fil rouge de tout ce disque, c'est le temps qui passe, finalement.
Exactement.
C'est con à dire, mais quand ce qu'on aime fout le camp, remonter la pente, enfin, voilà, le temps qui passe, les années, la nostalgie peut-être aussi.
Il y a la nostalgie, quand je dis le meilleur reste à venir, c'est pas forcément de la nostalgie, évidemment, mais il y a la nostalgie.
Est-ce qu'il ne faut pas prendre le contre-pied, justement, de ça?
Il y a une histoire d'âge, je pense que on évolue, sa pensée évolue et tout ça. Il y a des moments où on a envie de faire le bilan d'un truc, on a envie de parler des choses qu'on a vécues, on n'était peut-être pas apte à en parler quand on était en train de les vivre. Et puis comme demain j'arrête, qui est un texte un petit peu sur ce qu'on appelle l'addiction.
Oui.
Donc, voilà, c'est peut-être pas évident quand on l'écoute, mais ça m'intéressait pas de parler de l'addiction en des termes trop crus, quoi.
Trop explicite, on va dire. Oui.
Trop explicite, voilà. Oui, il y a une part d'autobiographie dans l'album.
Alors forcément, Didier, j'imagine que tu as écrit ça tout seul. Enfin, c'est ta vie, hein, ce sont tes états d'âme à toi. Mais après, je voulais savoir quelle était la part en fait des musiciens qui sont assez nombreux, qui t'accompagnent sur tout ce disque. Est-ce que tu leur as donné des idées? Est-ce que eux emportaient des idées de thèmes, de riffs, d'accords? Enfin, comment ça s'est construit la suite de l'album?
Bah écoute, l'album il a été fait alors d'une façon assez spéciale parce que j'avais commencé avant les histoires de Covid et en fait comme j'enregistre à Paris, enfin à Villepinte chez un copain qui s'appelle Ranou, j'enregistre là-bas et puis donc après c'était compliqué, j'habite Amboise moi, donc d'aller à Paris pour faire des puis de réunir des musiciens avec les contraintes sanitaires et tout ça, c'était compliqué. Donc voilà, j'ai posé des guitares et une guitare et une voix et puis un métronome et après j'ai demandé à Jeannot, le batteur avec qui je joue depuis pas loin de 40 ans.
Ah oui, Jeannot Cirillo.
Ouais. Non, peut-être pas 40 ans, mais 35 ou 36, je sais pas.
Des années 80, voilà.
Voilà, et donc on joue ensemble depuis très longtemps. Donc j'ai demandé de faire des batteries. Donc là, lui, il a sa façon de jouer, et puis moi, il y a ce que je veux. Donc on bricole avec nos idées, on échange des idées. Ensuite, la basse, en général, c'est moi qui fais une ligne de basse, et puis qui demande à un bassiste de la jouer. Les guitares, c'est moi qui m'en occupe. Les claviers, j'ai toujours les idées de base, et puis après, c'est bien aussi de laisser les instrumentistes jouer comme ils savent jouer, puisqu'en général, on a l'habitude de jouer ensemble, donc ils savent ce que j'aime, moi je sais ce qu'ils savent jouer. Voilà, puis, bon, il y a eu Diabolo aussi, alors Diabolo, c'est différent.
Oui, alors Diabolo, pour situer, ça a été l'harmoniciste de Johnny pendant un petit moment, non ?
Digelin, pendant très longtemps.
Putain, ouais. N'importe quoi.
Digelin pendant très longtemps.
On coupera ouais. Le montage, merde, c'est du direct.
Et c'était un copain, on avait fait des choses ensemble. Ben, à l'époque où il faisait Bercy avec Digelin, d'ailleurs. Puis on est resté, ouais, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et puis lui, alors par contre, lui, il fait son truc à lui. Il a sa façon à lui de se placer par rapport à ce qu'il entend. Et voilà, donc... Là, lui, je l'ai laissé vraiment faire.
J'ai cru comprendre entre deux lignes, tu as collaboré aussi avec Jacques Higelin, alors.
Non, pas moi.
Non, pas toi, d'accord. C'était Jadot.
On a joué ensemble à l'époque. Je croisais souvent Jacques Higelin, mais on a collaboré ensemble avec Diabolo. On a fait un album avec un chanteur qui s'appelait Serge Newton, avec Jeannot, Cyrilo aussi. Serge a disparu depuis longtemps maintenant. Voilà, mais on a toujours gardé une complicité.
Et ensuite, les répétitions, la mise en place, tout ça, il y a eu une partie de fête au studio ou c'était déjà tout compacté avant d'enregistrer ?
Oui, ça s'est fait au studio, en fait. On a joué quelques morceaux sur scène avant, parce qu'on avait fait un ou deux festivals avant. Donc, tout le monde connaissait un peu les morceaux, et puis avait une idée de comment se placer dedans. Voilà, puis après, les répétitions sont venues plutôt après l'album, en fait.
Et alors ensuite, l'album est sorti, effectivement. Pendant qu'on parle tranquillement, il y a des gens qui interviennent. Je regarde sur le timeline de Sweet Home Chicago sur le Facebook. Ça va. Alors, il y a Olivier Durusseau. Ah ben ça, c'est pas une question. Mais c'est cool d'entendre un orgue dans un combo blues, ça devient rare. C'est plutôt un compliment, je pense, pour le pianiste. Et puis, le même nous dit, où est-ce qu'on peut trouver son disque ? Ah oui, ben alors, le disque, effectivement, je suis allé sur didiermarty.com et on n'a pas de boutique. Comment on fait pour... Ah si, on peut cliquer, commander l'album, c'est ça ?
Oui, voilà, puis vous m'envoyez...
On peut commander à toi.
Vous m'envoyez un mail, et puis après, c'est pas compliqué. Hein.
Tout ouais, simplement.
C'est moi qui envoie les disques, ouais.
Ça veut dire pas de distributeur ? Ça, c'est un parti pris, Didier ?
Non. C'est pas un parti pris, c'est que j'ai jamais... Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc voilà. S'il y avait j'ai un distributeur pour Vigon. Voilà. Puis là, j'ai pas fait la démarche. Et puis c'est comme ça.
Alors, il y a plusieurs...
Mais si vous m'envoyez... Si les gens m'envoient un mail, ça va être... C'est facile. Hein.
Très bien. Donc, on part sur, de toute façon, didiermarty.com. D-I-D-I-E-R-M-A-R-T-Y, tout collé, bien sûr, .com. Ouais. Et puis, voilà, vous en saurez plus et davantage sur l'homme et l'artiste. L'album Mes états d'âme, voilà, que tu vas pouvoir défendre, je l'imagine, sur scène. Ça fait partie de mes dernières questions, Didier. Alors, il n'y a pas forcément beaucoup de choses prévues pour l'instant, si j'ai bien compris.
Non. Ben, j'espère qu'il y en aura plein, parce que moi, en fait, mon truc, c'est la scène.
Ouais.
Moi, j'aime l'écriture, j'aime aller en studio, faire des disques, mais j'aime surtout être sur scène. Moi, à une époque, je disais que c'est là où je me sentais le mieux. Ben, alors, à force de pas y aller, peut-être que je vais changer d'avis. Mais moi, c'est la scène qui m'intéresse.
On va continuer à être franc, Didier. Moi, je t'ai pas vu 100 fois sur scène, mais je me souviens d'un concert sur Cognac avec une chanteuse américaine qui s'appelait, je crois, Wanda Jackson, c'est bien ça ? Je me trompe ?
Écoute, je sais pas.
Ça remonte à plus de 10 ans, en tout cas. Hein.
C'était avec
Wanda Johnson. Oh, attends, la mémoire me fait des
Ça, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. C'est une histoire. Si j'ai deux secondes, je te raconte l'histoire. Voilà, parce que moi, je jouais avec un brass band. Parce que je faisais un petit peu le off, tout le off de Cognac. Et moi, j'ai ramené l'idée du brass band de la Nouvelle-Orléans et j'ai fait un brass band pendant des années, donc, que j'ai dirigé, où on jouait de la musique de la Nouvelle-Orléans. Et puis là, Michel Roland, donc qui dirige le Festival de Cognac, m'avait demandé de jouer sur la grande scène entre deux artistes pendant le changement de plateau, de faire un passage, quoi, à deux titres. Bon. Et puis, pendant qu'on était au catering, il y a Michel Roland m'appelle en me disant bon, ça sera pas possible parce que les techniciens veulent pas, veulent personne sur scène, même en avant-scène pendant le changement de plateau.
D'accord.
Donc je dis mais qu'est-ce que c'est que c'était ? Enfin moi, j'avais déjà joué sur la grande scène de Cognac, c'était pas vraiment le problème. Mais donc je rappelle Michel Roland en lui disant mais attends, les techniciens comment ils peuvent diriger l'histoire alors que si on est en avant-scène, ça va pas les gêner pour. Il n'y a rien qui aurait pu les gêner. Mmh. Donc, voilà, il y a eu une discussion avec les techniciens. Des fois, de temps en temps, les musiciens, les techniciens, enfin, la plupart du temps, on s'entend vachement bien. Puis, des fois, c'est la guerre. Bon, là, ce jour-là, c'était le cas. Et donc, je repars à l'hôtel. Et puis là, en arrivant à l'accueil de Cognac, j'ai un appel. Il faut aller voir la chanteuse, donc Wanda Johnson.
Peut-être. C'est ça, Wanda Johnson, voilà.
Ouais. Et puis elle me dit, ouais, j'adore ton brass band. Est-ce que vous pourriez venir jouer quelques titres avec nous sur scène? donc c'était la vengeance de.
Et donc les techniciens
elle était pas au courant du problème.
Les techniciens n'avaient plus rien à dire, effectivement.
Non, voilà, c'est là où tu m'as vu, mais j'ai joué d'autres fois à Cognac avec Franck Hache, entre autres.
Ouais, puis, ouais.
Ah ouais, donc voilà l'histoire.
Alors, moi, j'imagine que des anecdotes comme ça, des choses, des souvenirs, des trucs croustillants, tu dois en avoir plus qu'à ton tour. Il y a sûrement des choses que tu partages dans, je sais pas, dans des soirées à la Nouvelle-Orléans. Tu t'es produit dans plusieurs endroits là-bas. Est-ce que tu es allé au Preservation Hall?
J'y suis allé, mais je me suis jamais produit. Moi, j'y suis allé là-bas en toute humilité. Et j'ai rencontré des musiciens que je connaissais, des musiciens de la Nouvelle-Orléans, des musiciens de Marva Wright. Et moi, j'y suis vraiment allé comme un touriste qui avait envie de découvrir tout le monde. Non, je ne suis pas allé pour jouer.
Je reviens sur le festival de Lisieux dont on parlait à propos de Screaming Joe Kill. C'est également Marva Wright qu'on a pu voir là-bas. Je parle de souvenirs qui datent d'il y a plus de 20 ans. Est-ce que toi, tu faisais partie de l'aventure à l'époque?
J'ai joué à Lisieux avec mon groupe de l'époque qui s'appelait Marty and the Gang.
Marty and the Gang, ben je crois que c'est là que je t'ai vu pour la première fois. On est dans les années 95 par là.
Alors là, je ne dirais pas. Ouais, j'ai joué là-bas, ouais, en tout cas. Mais au niveau des anecdotes, j'avais commencé pendant le premier confinement à écrire pas mal de choses. Je dois en être à 150 pages. Donc quand j'attends pas un nouveau confinement, j'en ai pas envie.
Donc tu pourrais sortir ça au format papier, au bout PDF.
Ouais, j'aimerais bien, parce que quand même, mais qu'on soit musicien ou pas, les anecdotes, elles sont. La musique, c'est quand même un métier particulier où on se balade, où on rencontre plein de gens différents, des endroits très très différents les uns des autres. Quand même, on a la chance de passer du. Moi, je me rappelle d'une fois où j'ai joué à Bercy et le lendemain aux Puces de Saint-Ouen. Donc ça, c'est quand même grandiose, quoi.
Encore une fois,
on pourrait s'en plaindre, mais moi, je trouve ça génial d'être capable de faire les deux.
Mais bien sûr, et puis des gens comme Lucky Peterson auraient pu dire la même chose. Enfin, d'ailleurs, ils l'ont
bien
dit.
Bien sûr. Lucky Peterson, j'ai joué avec lui dans les Puces.
Ah ben voilà.
Bien sûr, au One Way. Et puis j'ai joué avec lui sur scène aussi, je sais plus où. Enfin bref, voilà, lui il cherchait la musique. Mmh. Et quand on cherche la musique, eh ben elle peut être n'importe où, elle peut être dans une grande salle, dans une petite salle, la musique est partout, quoi. C'est comme ça. Il faut le chercher.
Didier, on terminera avec une question sur l'avenir de cet album et puis bien sûr les prochains concerts pour lesquels tu vas t'employer à défendre ce disque. Mais on finira pas sur une note triste, donc je voudrais te poser la question maintenant. Je voulais savoir quel souvenir personnel tu gardes d'un garçon comme Patrick Verbeek qui nous a quittés à l'été dernier.
Ah, Patrick, c'est pas un souvenir, c'est plein de souvenirs, parce que je pense que je l'ai rencontré quasiment en arrivant à Paris. Moi, je suis arrivé à Paris en 80. Et puis, l'histoire que je garde, c'est, voilà, le dernier 31 décembre, c'est-à-dire pas cette année, mais l'année précédente. Attends, c'était en quelle année
2020.
La dernière fois c'était 2020 ou 2019, avant le Covid.
Avant le Covid, donc c'était 2019.
Voilà. Et ben là, Patrick m'a appelé le 31 décembre en me disant « Ouais, vous jouez au Petit Journal. » Enfin, ça ne s'appelait déjà plus le Petit Journal. « Voilà, moi, j'ai rien à faire ce soir. Qu'est-ce que t'en dirais si je passe ?» J'ai dit bah, « Bien sûr. » Il me dit « Ouais, mais... Enfin, » alors, et j'ai dit « Écoute, tu viens, t'amènes une guitare et puis on... » Bon, mais alors, pour bouffer, ça va être compliqué. J'ai dit, non, on va s'arranger, on va se débrouiller, viens. Et il est venu, et voilà, on a passé la soirée ensemble, et c'est la dernière soirée que j'ai passée avec Patrick. Et après, je l'ai eu au téléphone, 2 jours avant son décès. On l'a appelé, il a dit, tout va bien. Tu vois, c'était quand même quelqu'un d'optimiste et qui avait la patate. Voilà. On l'a appelé, on était en train de jouer avec Jeannot, on l'a appelé. Et puis voilà.
Bah, il était programmé pour un festival juste au moment
à la Charité, ouais.
Voilà, Charité sur Loire. Ouais. Benoît Blouboy y était, mais pas Patrick Verbeek.
C'est pour ça qu'on l'a appelé d'ailleurs, parce que j'avais su qu'il n'était pas allé à la Charité. On l'a appelé pour prendre de ses nouvelles. Et voilà, il nous a dit tout va bien.
Didier Marty avec cet album Mes états d'âme dans Sweet Home Chicago sur le 666, un album qui est sorti l'été dernier, au début de l'automne dernier, puis qu'on a écouté et réécouté, qu'on va se repasser avec grand plaisir au cours des prochains Sweet Home Chicago. Un petit mot pour un truc que j'aurais oublié de te demander, ou un message à passer. Il y a une voiture qui est mal garée, je sais pas, un petit message.
J'ai une voiture dans mon garage, là,
ça va.
Elle est bien garée, mais le message, c'est que voilà, s'il y a des organisateurs qui veulent nous faire venir, moi, c'est avec plaisir. Je le dis encore une fois, là, c'est la scène qui m'intéresse.
Effectivement.
Et puis, je souhaite tout le bonheur à tous les gens qui nous écoutent et qui continuent à écouter du blues. Et puis, je souhaite une super bonne chance pour la suite de l'émission, parce que c'est heureusement qu'il y a des gens comme toi et des auditeurs qui font que cette musique continue à exister, voilà.
Ben écoute, merci, et puis de toute façon il y en a plein d'autres, et puis voilà, merci en tout cas d'avoir accordé de ton temps pour ce 1135e Sweet Home Chicago en direct, hein, encore une fois, et puis merci à Olivier Durousseau qui était notre seul auditeur à participer à l'interview. Il te demandait les festivals cet été, peut-être on t'y verra, pour l'interrogation, voilà, je crois que tu as lancé le message, pour l'instant il n'y a pas forcément de date, mais voilà, et ben Michel Roland, Robert Moriès, allez-y, hein, prenez Didier, notamment, il y en a d'autres, bonne chance à toi, et puis longue vie à ta musique, et puis bonne chance bien sûr à l'actualité de cet album qui s'appelle encore une fois Mes états d'âme. Merci Didier.
Merci, salut.
À très bientôt, salut.
Faut pas un clou. C'est un jour sans, faut faire avec. Je suis dans la cave au fond du trou. Au bout du goulot, au bottleneck. De telles descentes en zigzagant. Y'a que les barjots qui osent en faire. Sirop, mais je suis conscient. Et j'attends que le rouge passe au vert. Remonter la pente. Rester descend pendant la descente. Dans la cordillère des Andes. En attendant que l'alcool d'hier descende. J'voudrais me noyer dans un verre d'eau. Mais on me conseille le régime sec. J'suis prêt à boire au lavabo. Mais j'ai la tête comme une pastèque. Avec mes chaussures à bascule. J'ai pas pu prendre le volant. J'ai préféré charger la mule. Qu'a pas voulu que je passe devant. Remonter la pente. Rester descend pendant la descente. Dans la cordillère des Andes. En attendant que l'alcool hier descende. Comme tout tombe autour de moi. Mon équilibre est très précaire. Sacré vertige, histoire de foi. Dieu seul sait dans quel état j'ai. Remonter la pente. Rester descend pendant la descente. Dans la cordillère des Andes. En attendant que l'alcool hier descende. Remonter la pente. Rester descend pendant la descente. Compter alcoolisé au rhum. Sur les marches du Colisée à Rome.
Didier Marty, extrait de l'album Mes états d'âme, avec ce titre Remonter la pente. Encore merci à toi Didier pour cette interview en direct dans Sweet Home Chicago. Et bonne route bien sûr. On poursuit avec ZZ Top, extrait de Rio Grande Mud. On est en 1972, 50 years after, dans Sweet Home Chicago.
Still I'm
L'album, c'était Rio Grande Mud. On était en 1972 avec ZZ Top. Et on va terminer avec un artiste absolument... on va arrêter les adjectifs. Non, franchement, incontournable. Allez, le grand-père du blues, Muddy Waters. Extrait de l'album Live at Mr. Kelly. On est en 1971. Et c'est avec ça qu'on va se quitter pour ce 1135e Sweet Home Chicago. Salut à tous. Bye bye. Voilà, c'est avec cet extrait de Live at Mr. Kelly, on est en 1971, Muddy Waters, qu'on se quitte. Et puis je vous donne rendez-vous, vous l'avez compris, samedi prochain avec une émission spéciale 5 février. Donc coup de cœur spécial de Laurent Choubrac et Jean-Christophe Panico. Ça sera le tome 3. Ils vont vous choisir des tas de trucs qu'ils ont aimés, préférés au cours de toutes les années qui ont forgé leur éducation musicale à ces deux garçons qui se sont rencontrés, rappelons-le, c'était un samedi midi en mai 2011, ici même dans les studios du 666. Laurent Choubrac et Jean-Christophe Panico avec les Wish Doctors. C'était hier soir et ce sera également ce soir sur la scène du Souboc à Coville avec Emmanuel Desnaux et Olivier Gébé pour un répertoire spécial Johnny Hallyday. Je vous souhaite un bon week-end. Salut, bye bye.